France Musique. Musicopolis. Moussorgski, Boris Godounov, l'opéra d'une vie. C'est un cas à peu près unique dans l'histoire de la musique, à peine croyable. La musique d'un compositeur, coupée, réorchestrée, transformée en un mot bidouillé. Et ça, plusieurs fois même, par différents arrangeurs et pendant plus d'un siècle. Incroyable, mais pourtant c'est exactement ce qui est arrivé à l'opéra de Moussorgski, Boris Godounov. A-t-il été possible qu'autant de bidouillages soient réalisés sur l'opéra de Moussorgski? La seule explication que je peux imaginer, c'est que Moussorgski était considéré comme un musicien amateur, un dilettante, non professionnel. Puisqu'il n'avait pas fait les traditionnelles études d'écriture musicale, donc toutes ces innovations pouvaient être considérées comme des maladresses, des erreurs ou des hasards. Et donc, il n'y avait qu'un pas, vite franchi, pour que des musiciens bien intentionnés se plonge dans la partition et en enlève tout ce qui pouvait saillir et ressortir. Rimsky-Korsakov le premier s'est attelé à la tâche, puis d'autres, Melngailis, Goussens et encore Hippolytov-Ivanov et Shostakovich et Rathaus. Dernière révision en date, 1953. Depuis, on n'a plus osé passer commande de nouvelles orchestrations, quand même. Mais la révision de Rimsky-Korsakov a encore été enregistrée au Bolchoï en 1985. Heureusement, ces derniers temps, il semble qu'on ne joue plus que la musique originale de Moussorgski. Mais oublions toutes ces avanies subies par la musique de Moussorgski. Et revenons à la genèse de Boris Godounov. Moussorgski découvre le sujet de son opéra grâce à son ami Vladimir Nikolski, professeur d'histoire et de lettres, qui lui fait lire la pièce de Pouchkine sur le tsar Boris. En 1868, Moussorgski a alors 31 ans, il se met à l'écriture du livret, à partir des 23 scènes de la pièce de Pouchkine. Il condense l'histoire en 7 scènes, dont l'une est inventée par lui, la plus célèbre, la scène du couronnement. En octobre 68, il commence la composition, qu'il achève en décembre 1869. C'est rapide, si on considère qu'il y a là 3 heures de musique, que Moussorgski a un emploi dans l'administration des eaux et forêts et qu'il y travaille tous les matins. Ayant achevé et orchestré son opéra dans la fièvre en décembre 1869, Moussorgski le présente au comité de lecture des théâtres impériaux. C'est un passage obligé s'il veut pouvoir être représenté au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Le comité ne rend sa décision qu'en février 1871, plus d'un an après la fin de la composition. C'est non. Sur les 7 membres du comité, un seul a voté pour, sans doute le chef d'orchestre tchèque Eduard Napravnik. À noter que plusieurs des membres du dit comité ne parlaient même pas russe. La raison invoquée pour le refus est qu'il n'y a pas de rôle féminin digne de ce nom, et par conséquent, pas de duo d'amour. Ah, et puis, il manque un ballet aussi. On lui retourne donc livret et partition. Remarquez ici que l'opéra Boris Godounov, tel qu'il a été conçu au départ par Moussorgski, ce qu'on appelle sa version initiale ou version de 1869, est parfaitement cohérent. L'histoire du tsar, condensée, découpée en séquences, alternance de scènes d'intérieur et d'extérieur, intimistes ou fastueuses. On passe du monastère de Novodievitchi, où Boris fait retraite, à la place du Kremlin, où il est couronné. Suivent la scène du vieux moine Pimen, qui rédige sa chronique devant le jeune Grigori. La scène à l'auberge, avec l'hôtesse et les moines vagabonds. Puis les appartements du tsar au Kremlin, Boris et ses enfants. La rencontre avec l'innocent sur le parvis de Saint-Basile. Et enfin, dernière scène, la Douma, assemblée des boyards et mort de Boris, qui clôt l'opéra.
Thank you. Боже, смерть, прости меня. Вот, вот царь ваш.
Après le refus du comité de lecture, Moussorgski, bien que ce soit un coup dur pour lui, se remet au travail pour essayer de coller aux desiderata des théâtres impériaux. Il commence par introduire le personnage de Marina, la polonaise, dans de nouveaux tableaux qui se passent en Pologne et donneront lieu à un nouvel acte dit polonais. Il remanie les scènes déjà existantes, il déplace certains passages d'une scène à l'autre, il supprime la scène de Saint-Basile et il ajoute la scène finale, la révolte dans la forêt de Kromy, qu'il place à la toute fin, après la mort de Boris. Il passe un peu plus d'un an sur cette nouvelle mouture, qui sera la version définitive. Il termine en juin 1872 et tout de suite, il présente son nouvel opéra au comité de lecture. Le 29 octobre, Boris Godounov II est refusé. Depuis que Moussorgski a commencé à travailler sur Boris Godounov, il a joué des extraits à ses amis, ceux du groupe des Cinq, et tous les musiciens et artistes qui gravitent autour du groupe. En novembre 71, Borodine écrit « Vendredi, on a donné tout Boris, sauf le dernier acte, chez les Purgold. C'est magnifique! Quelle richesse! Quel contraste! Comme tout cela est bienvenu et bien motivé, l'œuvre m'a plu énormément. » Dès le mois de février 72, un extrait a été donné lors d'un concert de la Société musicale russe, la scène du couronnement. Un an plus tard, en 73, alors même que l'ouvrage a été refusé, trois tableaux sont joués au théâtre Mariinsky, au bénéfice du chanteur Gennady Kondratiev. Les chanteurs ont alors le droit de donner parfois des concerts à bénéfice, au cours desquels ils sont plus libres de choisir leur programme. C'est un grand succès. César Cui écrit qu'il est difficile d'imaginer quelque chose de plus parfait. Что
Спасибо.
on parle beaucoup dans Saint-Pétersbourg de ce refus du comité des théâtres de représenter Boris Godounov. Comment est-ce possible alors que les extraits joués ont eu tellement de succès? Des voix s'élèvent contre ce diktat et c'est une chanteuse, Julia Platonova, qui va faire bouger les choses. Elle déclare au directeur du théâtre Mariinsky que si on ne joue pas Boris lors de son concert à bénéfice, elle rompra son contrat. Le directeur cède, il met l'œuvre en répétition. La première a lieu le 27 janvier 1874. À la création, le succès de Boris Godounov est immense. Chaque tableau est applaudi et à la fin, Moussorgsky est rappelé près de 20 fois. Le public est certes divisé, mais les jeunes progressistes manifestent leur joie plus bruyamment que les conservateurs leur déplaisir. Les étudiants et les opposants au régime apprécient dans l'œuvre un message politique, peut-être plus que musical. C'est que Moussorgsky a su toucher la fibre russe de ses spectateurs. L'opéra est le lieu idéal pour la revendication d'une identité nationale. Et depuis la création de La vie pour le tsar de Glinka en 1836, c'est peut-être la première fois que le peuple russe est mis autant en valeur. Si la première version de 1869 tournait autour des tourments du tsar Boris, la version définitive, qui se termine par la révolte dans la forêt de Kromi, fait du peuple russe le véritable héros du drame. Moussorgsky a introduit de nombreux chœurs et également des chansons populaires. Il a mis à profit toutes les recherches qu'il avait faites auparavant sur la langue russe et sur comment la chanter. Под Казань городом, он вот ходит под капел да под Казань по реку. Так татарьку по городу покаживают, этот царя и вороти поглядывают, зли татарники. Разный царь он закрушился, он повесил головушку на правое плечо. Уж так стал царь, уж скорей зевать, уж скорей со зажигальщиков, зажигальщиков. Après la première du 27 janvier 1874, César Cui, ami de Moussorgsky et membre du groupe des Cinq, qui avait jusqu'ici fait beaucoup de compliments de ce qu'il avait entendu de Boris, écrit un article ravageur, avec toute une liste des défauts qu'il trouve à l'œuvre. Moussorgsky, profondément blessé, écrit à son ami Stassov « Cette accusation sans fondement et tous ces autres mensonges calculés m'embrument le regard, comme si un courant d'eau de vaisselle passant devant mes yeux leur cachait tous les objets. » Случайно завелось, душа сгорит, Вольется сердце ядом, как тяжко, тяжко станет, Что молотом стучит душа укором и проклятием, И душит что-то, душит, и голова кружится. Boris Godounov va être donné une dizaine de fois en 1874, mais avec de plus en plus de coupures. notamment la troisième scène, celle du couvent. On redonne l'opéra encore deux fois en 75, puis il revient en octobre 76. Encore 14 représentations, mais amputées de la scène finale, la révolte du peuple à Cromi, et de nombreuses autres mutilations. En 82, l'année qui suit la mort de Moussorgski, l'opéra est tout à fait retiré du répertoire du Mariinsky. Après les représentations de Boris Godounov, les amis de Moussorgski ont remarqué qu'il a beaucoup changé. Le joyeux compagnon a fait place à un mutique tourmenté qui s'alcoolise le soir dans les bars jusqu'à en devenir insensible. S'il a célébré le peuple russe et sa révolte dans son opéra, néanmoins, Moussorgski n'a pas été optimiste. Les derniers mots sont pour l'innocent, personnage emblématique de la culture russe, qui chante « Coulez, coulez larmes amères ». Pleure, pleure, âme chrétienne. Bientôt viendra l'ennemi et la nuit tombera, une nuit noire et impénétrable. Malheur, malheur à la Russie. Pleure, pleure, peuple russe, peuple qui a faim. La scène finale de Boris Godounov de Moussorgski dans la version de 1872 avec Yannis Progis, ténor, dans le rôle de l'innocent, le chœur de la radio du RSS, l'orchestre symphonique de la radio-télévision russe dirigé par Vladimir Fedoseyev. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet « Contact ». Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Mercher pour le mixage, Max James pour la réalisation et Élise Kravets pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.